Chers auditeurs, bonjour. Nous voici réunis pour une nouvelle émission hebdomadaire qui va vous permettre d'écouter des chants monodiques, c'est-à-dire homophones, à une voix, una voce, ce précieux trésor du chant sacré grégorien, selon la belle formule de sa sainteté le pape Pie XII dans sa lettre encyclique sur la musique sacrée du 25 décembre 1955. Nous sommes désormais parvenus au 26e dimanche après la Pentecôte. Permettez quelques mots d'explication car il n'est pas toujours aisé de s'y retrouver en cette fin d'année liturgique. L'antiphonaire grégorien n'assigne que 24 dimanches à la période qui s'étend de la Pentecôte à l'Avent. Mais comme la durée de ce cycle dépend de la date de Pâques, si l'on a dû omettre quelques dimanches après l'Épiphanie, leurs collectes et lectures sont reprises après le 23e dimanche après la Pentecôte. Les chants de ce dernier dimanche du cycle d'automne sont alors répétés à chacune de ces messes dominicales supplémentaires. La messe assignée au 24e dimanche conserve néanmoins son privilège de précéder immédiatement le cycle de l'Avent. Aussi les messes intercalaires doivent-elles se placer entre le 23e et le 24e dimanche. C'est pour cette raison que ce 24e dimanche a dans le missel le titre de « Dernier après la Pentecôte ». Pour tous ces dimanches, on reprend au 23e dimanche après la Pentecôte l'introïte, le graduel, l'alléluia, l'offertoire et la communion de la belle messe « Dicit Dominus » que je vous propose d'écouter maintenant. En cette dernière messe grégorienne de l'année liturgique, la pensée de l'Église est bien sûr plus que jamais tournée vers la fin des temps. Mais cela n'exclut nullement des paroles d'espérance que formule notre Seigneur par son prophète Jérémie dans le texte d'introïte. Dicit Dominus, voici ce que dit le Seigneur. Ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis. Mes pensées sont des pensées de paix et non de malheur. Vous m'invoquerez et je vous exaucerai, et je ramènerai vos captifs de tous lieux. Jérémie annonçait ainsi la suprême consolation aux captifs de Babylone. Nous sommes tous concernés, quelle que soit l'époque, les épreuves sont nécessaires pour fortifier et purifier les âmes. Je vais vous lire quelques passages du très beau livre de Don Gajar, « Les plus belles mélodies grégoriennes », publié par Solesm en 1985. Nulle part la ligne mélodique générale ne porte la marque d'une joie exubérante. Ainsi, d'une part, et dans l'ensemble, une ligne assez continue, sans grand mouvement, sans lourdeur non plus, très simple, de caractère plutôt méditatif, donnant une impression de grande sérénité. D'autre part, se détachant en pleine lumière et dans une clarté d'autant plus vive, quelques saillies mélodiques sur les mots qui portent, sur les assurances données par Dieu de sa miséricorde et de sa volonté de salut. Fin de citation. Je ne vous livre que quelques phrases de ce magnifique livre de recueil de textes de Don Gajar. Ses commentaires apportent un enrichissement artistique et spirituel incomparable. Tout chef de chœur, mais aussi tout choriste, se doit de posséder cet ouvrage admirable. Écoutons la scola monastique de l'abbaye Notre-Dame de Trior.
In evocare
Passons au graduel, Liberastinos, de ce 23e dimanche après la Pentecôte, dont les paroles proviennent du psaume 43. Don Ludovic Baron, moine à l'abbaye Sainte-Anne de Kergonan, dit de ce texte que c'est un admirable acte de confiance qui, pour un instant, sort l'âme des sombres visions du mal pour la fixer sur les joies toutes proches des temps nouveaux, quand, glorifiée en Dieu, elle chantera dans un jour sans soir. Sa miséricorde, éternellement. Faisons appel précisément au moine de Kergonan, dirigé par Don Gaston Lenezé.
Et te levo, Spirit,
L'Alléluia de ce 23e dimanche est construit sur le début du psaume 129, De profundis clamaviate. Nous l'écouterons dans l'interprétation du chœur des moines de l'abbaye Notre-Dame de Trieure, dans la Drôme. Dont Jean Claire, dans la revue grégorienne de novembre 1953, après une étude très technique de cet Alléluia, qu'il rapproche de l'Alléluia post dies octo du dimanche de Quasimodo, concluait ainsi. Souhaitons, en terminant cette étude, que cette magnifique pièce, si expressive, si profonde, si représentative des beautés du répertoire grégorien, soit chantée avec amour et ferveur, pour le plus grand profit spirituel de ceux qui l'interpréteront et de ceux qui l'entendront, car la sainte liturgie procure le bien des âmes en même temps que la gloire de Dieu.
Alléluia. Alléluia.
L'offertoire de cette messe se nourrit encore de l'inépuisable De Profundis. Voyons d'ailleurs ce qu'écrivait Don Gajard dans l'ouvrage déjà cité Les plus belles mélodies grégoriennes sur ce psaume. C'est une prière instante à Dieu, un cri poussé vers lui du fond de l'abîme, tout chargé, sinon d'angoisse, du moins d'un sens profond de la misère humaine et de son besoin de miséricorde. Sans doute a-t-on généralement tendance, chez les fidèles, à se méprendre sur la signification véritable du psaume De Profundis, par l'accoutumance de l'entendre le plus souvent aux funérailles. Ce n'est que par une accommodation d'ailleurs très heureuse qu'on l'applique à l'office des défunts, à raison peut-être des premiers mots, et certainement aussi de son appel à la miséricorde divine, à l'heure où l'âme pécheresse paraissant devant son juge en a le plus besoin. En réalité, surtout dans le texte de la Vulgate, le psaume 129 est un appel, oui, mais qui n'a rien de funèbre, tout baigné de la plus totale confiance. Il n'y est question que d'espoir, de miséricorde, de rédemption. Mais auprès de vous est le pardon, et à cause de votre loi je vous attends, Seigneur. Mon âme attend, confiante en votre parole. Mon âme a mis mon espoir dans le Seigneur. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités, etc. Aussi l'Église est-elle bien inspirée de le faire entendre au soir de Noël, à l'heure même où s'ébauche par l'incarnation toute l'œuvre de la rédemption. Et c'est encore à lui qu'elle a recours à l'achèvement du cycle liturgique, alors que s'établit le bilan des grâces reçues et des responsabilités encourues. C'est une demande de pardon et un abandon total à la miséricorde divine. Fin de citation. J'ai écouté attentivement toutes les versions dont je dispose de cet offertoire, depuis des chœurs monastiques, Solem, Trior, Silos, etc., jusqu'à des chœurs de laïcs, Schola Bellarmina, Chapelle d'Hofburg de Vienne, mais nul n'atteint le recueillement des enfants du chœur Saint-Michel dans le disque Gloria Laus. Écoutez cette humble prière, à la fois discrète et ardente, cette atmosphère de paix rendue par un tempo très lent. Dom Baron n'écrit-il pas d'ailleurs ? C'est une prière d'enfant qui va vers le Père avec un sourire des lèvres. Achevons les chants de ce 23e dimanche après la Pentecôte avec l'antienne de communion « Amen dico vobis ». Il s'agit d'une parole de notre Seigneur prononcée le mardi saint, après l'épisode du figuier stérile et l'allusion à la foi capable de transporter les montagnes, et peu avant l'annonce de la ruine de Jérusalem et de la fin du monde. « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et cela vous arrivera ». Quelle belle confiance dans ce texte qui nous est offert pour clore l'année liturgique. Le père Pérodon, dans son ouvrage « Notre beau chant grégorien », nous fait remarquer combien la solennité royale du premier mode s'harmonise avec l'autorité souveraine des affirmations du maître.
Amen.
Nous parvenons, chers auditeurs, à la fin de notre émission présentée chaque semaine par l'association Una Voce, créée le 19 décembre 1964 en la crypte de Saint-Charles de Monceau à Paris. Mais décembre 1964, cela fait 60 ans. Nous comptons bien célébrer cet anniversaire et ce sera à Notre-Dame-du-Lys, 7 rue Blomet dans le 15e arrondissement à Paris, le samedi 7 décembre de 10h à 17h. La messe chantée sera célébrée par le chanoine Merly à 10h. Un déjeuner est proposé sur place, suivi d'échanges et conférences sur les traditions liturgiques d'Occident et d'Orient, avec la présence d'Anne le Pape, qui dédicacera son dernier ouvrage, précisément intitulé « La tradition liturgique », traitant ces sujets. Des représentants des églises maronites et chaldéennes ont déjà annoncé leur présence. Nous vous attendons nombreux. Vous qui venez d'écouter ces sublimes pièces de plein chant, vous souhaitez comme nous, je ne puis en douter, que soit développée cette liturgie latine et grégorienne, qui est l'expression même de la beauté du culte catholique. Notre association n'échappe pas, hélas, à la crise dont on parle chaque jour que Dieu fait. Les abonnements à notre revue constituent la grosse part de nos ressources indispensables pour faire face à nos inévitables frais de fonctionnement. Elle est en outre considérée comme la seule publication de ce genre, à tout le moins dans le monde francophone, et sans doute au-delà. Nous vous rappelons enfin que nous avons mis en place un fonds de dotation susceptible de recevoir des legs ou d'inscrire ce fonds comme bénéficiaire de votre assurance vie. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site unavoce.fr ou par courrier à l'adresse suivante. Unavoce, orthographié Una, U-N-A, plus loin, Voce, V-O-C-E, 34 rue du Hameau, 75 015, Paris. Téléphone 01 42 93 40 18. Laissez un message si nos bénévoles sont absents, ils vous rappelleront dès que possible. Vous pouvez nous contacter également par courriel Unavoce, en un mot, tiret, france@unavoce.fr. Si vous avez aimé, par cette modeste émission radiophonique, ce plein chant qu'elle essaie d'honorer au mieux comme Bible chantée, aidez-nous et revenez l'écouter la semaine prochaine. J'assurerai de nouveau, si Dieu le veut, la poursuite des commentaires et le choix des pièces grégoriennes de ce temps liturgique. Merci par avance et bonne semaine !